Et voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise de l'Aquarius en passe de trouver son épilogue, mais le défi migratoire reste entier pour les Européens. Nous irons en Espagne, qui se prépare à accueillir les 629 migrants rescapés de la Méditerranée. Et puis, que peut-on attendre de la rencontre entre le président Macron et le président du Conseil italien ce midi à l'Élysée ? Analyse à suivre de Marie-Pierre Véraud.
Pourquoi il est trop facile d'accuser l'Italie face à la crise migratoire ? C'est le thème du billet politique de Frédéric Seitz à 8h15.
Les tensions diplomatiques entre la France et l'Italie ne menace-t-elle pas le rapprochement du chantier naval français STX avec le groupe italien Fincantieri ? Jean-Marc Chardon sera en direct dans un instant avec les explications.
L'ONU pourrait créer une commission d'enquête internationale au Cachemire. D'importantes violations des droits de l'homme ont été commises par l'Inde et le Pakistan dans cette région disputée. Un rapport le confirme, compte rendu à suivre de Sébastien Farcy.
Enfin, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine en mission pour rassurer Pékin et Séoul après les annonces de Donald Trump sur la Corée du Nord. Précision de Dominique André à suivre. C'est une odyssée qui illustre les errances de l'Union européenne sur la question migratoire. L'Aquarius et ses 629 migrants naviguent toujours actuellement dans les eaux de la Méditerranée. Ravitaillement a été fait en pleine mer ces dernières heures par les gardes-côtes italiens. Et le bateau de l'ONG SOS Méditerranée se dirige actuellement vers l'Espagne. L'Espagne où le nouveau gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a décidé d'ouvrir ses portes. Le navire devrait accoster dimanche dans le port de Valence. Une semaine donc après avoir secouru les migrants naufragés, Marie-Hélène Ballestero.
A priori, la flottille composée de l'Aquarius et de deux bateaux italiens devrait accoster dimanche matin, car la météo est très mauvaise actuellement et l'expédition a dû dévier de sa route. Selon la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, les trois navires arriveront séparément au port de Valence à quelques heures d'intervalle, afin d'offrir aux migrants une meilleure assistance sanitaire, psychologique et par la suite juridique. Un volet sur lequel est revenu longuement hier à Valence, Carmen Calvo.
En el ámbito jurídico, atenderemos también...
Sur le plan juridique, nous répondrons également aux demandes d'asile. Nous parlons de migrants, de personnes qui sont en train d'émigrer en ce moment et dans de mauvaises conditions en mer Méditerranée. Elles vont donc débarquer dans un lieu sûr et nous devrons étudier au cas par cas la situation de ceux qui pourraient demander l'asile et qui pourraient donc être considérés comme des réfugiés.
Une fois que les migrants auront reçu l'assistance sanitaire, psychologique et juridique, ils devraient être répartis à travers l'Espagne. 12 régions et 200 municipalités sont prêtes à les accueillir. Quant aux mineurs, ils devraient rester dans les centres pour mineurs de la région de Valence.
Correspondance à Madrid, signée Marie-Hélène Ballestero. Et puis hier soir, en début de soirée, la France s'est dit prête à accueillir des passagers de l'Aquarius qui répondraient aux critères du droit d'asile après examen de leur situation en Espagne. La France, où Giuseppe Conte est finalement attendu ce midi, il s'en est fallu de peu pour que la visite du président du Conseil italien soit annulée à cause de la crise diplomatique née du refus de l'Italie d'accueillir ses centaines de migrants et faute d'excuses de la France après les propos d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui avait fustigé le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie, se faisant traiter au passage d'hypocrite par Rome. Finalement, l'enjeu de la migration a calmé les esprits et les deux hommes vont essayer de trouver une position commune ce midi avant le sommet européen de la fin du mois de juin. Marie-Pierre Véraud.
Oubliez les vilains mots, les noms d'oiseaux, place à l'approfondissement de la coopération bilatérale, comme l'écrit l'Élysée. L'Italie et la France partagent une frontière commune et le dossier migratoire est l'un des principaux sur la table du Conseil européen. Le pragmatisme a donc prévalu sur l'émotion. Même si la méfiance réciproque n'est pas forcément levée, sur la politique migratoire, les deux capitales peuvent trouver une approche commune, en particulier sur son versant fermeté. L'Élysée évoque par exemple la nécessité de mener une politique migratoire efficace avec les pays d'origine et de transit. En clair, multiplier les accords pour faciliter le renvoi des déboutés de l'asile et pour convaincre les États par lesquels ils transitent, soit d'arrêter ces migrants et de les reconduire eux-mêmes, soit de les garder sur leur sol. Sur un autre point à l'ordre du jour, une meilleure gestion des frontières, les deux États sont favorables à un renforcement des moyens de Frontex aux frontières extérieure de l'Union, même si sur la frontière commune, les contentieux se sont accumulés. il sera beaucoup plus difficile d'avancer sur le volet humanité. Les quotas obligatoires visant à répartir les demandeurs d'asile dans l'Union, comme le demande l'Italie, n'ont aucune chance de voir le jour. Trop d'États européens y sont opposés. Rome pourrait, cela dit, redemander à Paris de prendre sa part, ne serait-ce qu'en respectant les engagements pris il y a 2 ans. Quant à la réforme des accords de Dublin qui font peser sur l'Italie la responsabilité de traiter l'ensemble des demandes d'asile de migrants qui gagnent ses rivages, tout le monde a déjà compris que le Conseil européen de fin juin repoussera encore le dossier malgré le souhait de l'Italie d'avancer sur le sujet. La rencontre de Paris ne devrait pas changer la donne.
Analyse de Marie-Pierre Véraud. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Italie ne risquent-elles pas de remettre en cause la pérennité de l'accord passé entre STX France et l'italien Fincantieri? C'est un feuilleton qui dure depuis 2016, mis en vente par son actionnaire majoritaire sud-coréen STX. Le chantier naval de Saint-Nazaire est censé passer sous pavillon italien, tout en protégeant les intérêts de l'État français. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Anne Fautenberg.
Bruno Le Maire, qui était à Saint-Nazaire hier pour confirmer une commande record de 3 paquebots, s'est dit confiant sur la pérennité de l'accord avec Fincantieri.
Alors il est confiant aussi les Italiens qui trouvent leur compte dans ce dossier, qui est stratégique pour eux comme pour la France. Car voilà un chantier qui concentre la construction navale marchande, mais aussi militaire. Ce chantier dont on a dit qu'il pourrait déboucher sur un Airbus des mers, autrement dit un grand chantier franco-italien qui renforce l'Europe sur la construction navale, les intérêts français et italiens étant assez complémentaires. Sauf que ça a donné lieu à quelques passes d'armes entre les deux États bien avant le changement de gouvernement en Italie d'ailleurs. La France, qui après un accord annoncé sous le précédent quinquennat, s'était ressaisie, procédant à une renationalisation temporaire, juste le temps de protéger ses intérêts, avant de déboucher sur un accord remanié annoncé à l'automne, un accord permettant de laisser aux Italiens la majorité du capital, mais en accordant à la France une minorité de blocage. On en était donc resté là, mais du coup, le chantier naval n'est toujours pas passé effectivement entre les mains du groupe Fincantieri. Il faut encore l'autorisation des autorités de la concurrence européenne pour le valider et qu'il ne vacille pas sous les coups de désaccords de dernière minute. Rien à craindre à entendre Bruno Le Maire, qui s'est voulu rassurant, mais quelques semaines encore à patienter avant que tout soit effectivement conclu, sans doute.
Merci Jean-Marc Chardon pour vos précisions. Après l'Italie ou encore le Royaume-Uni, la France adopte sa réforme ferroviaire. Les acteurs du rail s'attellent maintenant à l'écriture de la convention collective nationale. Une réunion tripartite est organisée aujourd'hui au ministère des Transports. L'intersyndicale qui demande des engagements forts à la ministre Elisabeth Borne, faute de quoi la grève continuera au-delà du 28 juin. C'est la disparition d'un programme exceptionnel conçu en pleine crise financière. La Banque Centrale Européenne a annoncé hier la fin de ses rachats de titres financiers démarrés en 2015. Des rachats massifs qui avaient pour but de relancer l'inflation et la distribution de crédits dans la zone euro. Une politique dite non conventionnelle qui avait été initiée par les États-Unis pour contrecarrer les effets de la crise des subprimes. Alors pourquoi la BCE a-t-elle pris cette décision, Clément Fontan? Vous êtes chercheur en économie politique.
C'est qu'il est difficile de continuer à racheter des titres sur les marchés. Par exemple, la Banque centrale avait défini qu'elle rachèterait les titres des différents États dans une certaine proportion. Or, par exemple, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de bons du trésor allemand disponibles sur les marchés secondaires. Et donc, elle a du mal à trouver des titres à racheter déjà. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'effectivement, les tensions économiques s'atténuent. Donc pourquoi pas choisir ce moment pour entamer une sortie des politiques monétaires non conventionnelles. Et la troisième raison, c'est que par ces programmes de rachat de titres, la Banque centrale rentre davantage dans le domaine politique, ça crée davantage de tensions à l'intérieur du Conseil des gouverneurs et il y a une volonté aussi d'atténuer les tensions et de trouver un compromis entre les différentes parties opposées au sein de la Banque centrale.
Quel effet ça peut avoir sur les marchés? Ça va avoir un effet, d'après vous?
Les marchés ne réagissent pas tant aujourd'hui, je pense, car la Banque centrale européenne ne va pas diminuer dans l'immédiat sa présence dans l'économie, elle ne va pas vendre les titres qu'elle a déjà achetés. Donc finalement, nous avons une stabilisation des achats de la BCE, mais pas une fin de cette nouvelle ère finalement des banques centrales qui avait commencé en 2010.
Des propos recueillis par Marie Viennot.
8h09, la suite des matins de France Culture avec le journal d'Anne Fauquemberg. Donald Trump a-t-il détourné de l'argent de sa fondation à des fins personnelles ?
La procureure générale de l'État de New York a attaqué en justice hier le président américain. Elle estime qu'il s'est servi illégalement de sa fondation comme d'un chéquier, notamment pour sa campagne présidentielle. Et puis deux jours après les annonces du président américain à Singapour, à savoir la suspension des exercices navals conjoints avec Séoul pour intimider la Corée du Nord, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a affiché une plus grande fermeté hier. Il s'est rendu au Japon, à Séoul et à Pékin. Le récit de notre correspondante Dominique André.
Après le sommet de Singapour, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a fait la tournée des alliés sud-coréens et japonais. Il fallait les rassurer après la décision spectaculaire de Donald Trump de mettre fin aux manœuvres conjointes dans la région. Si c'était une promesse de campagne électorale de Trump, le Japon et la Corée du Sud ont tout de même été pris de court et leur inquiétude a percé. Ces manœuvres jouent un rôle crucial pour la sécurité en Asie du Nord-Est, a dit le Japon. Mike Pompeo a confirmé que l'arrêt des exercices était conditionné à des négociations productives et de bonne foi, a-t-il précisé, avec la Corée du Nord. Le secrétaire d'État américain s'est rendu ensuite en Chine, principal soutien économique du régime nord-coréen. À Pékin, il a eu un entretien avec son homologue chinois Wang Yi. Les États-Unis veulent maintenir les sanctions économiques votées à l'ONU jusqu'à l'abandon total du programme nucléaire nord-coréen. Or, la Corée du Nord parle d'un processus graduel et la Chine, par laquelle transite 90% du commerce nord-coréen, voudrait alléger les sanctions. Le processus d'allègement des sanctions sera examiné le moment approprié, a insisté Mike Pompeo. Si la guerre a été évitée, les discussions entre Américains et Nord-Coréens reprendront la semaine prochaine aux États-Unis. Le chemin vers la paix est encore long et à risque.
C'était Dominique André depuis Pékin. L'ONU réclame l'ouverture d'une enquête internationale au Cachemire, conséquence de la publication d'un rapport sur des violations commises par l'Inde et le Pakistan dans cette région disputée par les deux pays. Le Conseil des droits de l'homme est particulièrement sévère avec New Delhi et reconnaît pour la première fois depuis longtemps le droit à l'autodétermination des Cachemiris, Sébastien Farcy.
Fallacieux et partial, la condamnation de New Delhi a fusé quelques minutes seulement après la publication du rapport. Le gouvernement est outré de ce qu'il appelle une violation de sa souveraineté. Mais au Cachemire, ce document représente un nouvel espoir. Les habitants sortent de 2 années de répression pendant lesquelles, martèle ce rapport, environ 145 civils ont été tués et plus de 6000 blessés par des tirs de billes de plomb. Khurram Pervez est le coordinateur de la coalition de la société civile au Cachemire et il a lui-même été placé en détention préventive pendant 2 mois en 2016.
This is a huge moral booster for human rights organizations here in Kashmir.
Cela représente un énorme soutien moral pour les organisations de défense des droits de l'homme du Cachemire, ainsi que pour les victimes de ces actes qui voient que leur souffrance est prise en compte par les Nations Unies. La torture est pratiquée depuis 28 ans et continue aujourd'hui. En 2016, un professeur d'université a été torturé à mort par l'armée et la police a prouvé ces faits et recommandé que les militaires soient poursuivis, mais rien n'a été fait. L'ONU reconnaît cette situation et déplore dans ce rapport que depuis 28 ans, il n'y a eu aucune condamnation d'un militaire responsable de violation des droits de l'homme.
Depuis 1990, les forces armées opérant au Cachemire ne peuvent être poursuivies par une cour civile qu'après l'accord du ministère de la Défense, ce qui n'est donc jamais arrivé en 28 ans.
Sébastien Farcy, le correspondant de RFI pour France Culture à New Delhi. 38 pays appellent également l'ONU à intervenir auprès de Vladimir Poutine au sujet des droits de l'homme, alors que la semaine prochaine, le secrétaire général Antonio Guterres doit se rendre en Russie. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni notamment lui demandent d'évoquer le cas du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov en grève de la faim dans une prison du Grand Nord du pays. La Russie, où le mondial de foot vient de s'ouvrir à Moscou avec une démonstration de force pour les Russes qui ont remporté leur premier match 5-0 face à l'Arabie Saoudite hier soir. La Russie, où 736 joueurs sont présents, des joueurs dont la performance sera scrutée par les spectateurs, par les entraîneurs et par les scientifiques. C'est une tendance aujourd'hui incontournable du football moderne. La science s'invite sur les terrains de football et c'est ce que vous allez nous raconter. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Anne.
Vous signez le magazine de la rédaction cette semaine, vous êtes en direct de Moscou. Pourquoi le foot s'intéresse-t-il à la science et vice-versa ?
Eh bien, regardez aujourd'hui un entraînement d'une équipe professionnelle de football. Vous verrez sur le dos des joueurs un GPS, un cardiogramme, leur ceinture, la poitrine. Des ordinateurs sont sur le bord du terrain. Parfois, des drones survolent la pelouse. Tout ça pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour améliorer la performance des joueurs, leur déplacement, leur vitesse, leur conduite de balle. Tout sera disséqué pour traquer leurs défaillances et leurs manques. Alors aujourd'hui, pas un seul club qui vise le haut niveau ne peut se passer de ces données, ces data qui servent à tout. Comment mieux tirer un corner, comment repérer des joueurs aux statistiques intéressantes pour les recruter. De nouveaux métiers sont apparus à côté des staffs sportifs. On les appelle les analystes de la performance. Leur mission, rationaliser le football.
Et les scientifiques sont aussi très présents pour analyser le football.
Eh bien, ce soir, on vous emmènera dans un institut de biomécanique humaine à Paris. La biomécanique, c'est l'étude du comportement humain, de nos gestes, avec les outils de l'ingénierie. Et cet institut s'est penché, par exemple, sur l'impact que peut avoir une pelouse naturelle ou synthétique sur les blessures des joueurs, en fonction notamment des chaussures à crampons qu'ils ont aux pieds. Tout cela est modélisé et transmis au club. Alors, on vous fera aussi découvrir une start-up française qui a mis au point une sorte de protège-tibia connecté. Vous le placez sous votre genou et en direct, pendant un match, vous avez des dizaines de statistiques sur votre performance. Les applications, vous l'imaginez, sont infinies. Et ne croyez pas qu'il n'y a que le foot qui intéresse la science. Toutes les disciplines sont aujourd'hui concernées. Mais cette tendance pose des questions. Quelle place pour l'instinct, pour l'humain à la base du sport ? Eh bien, vaste débat que l'on abordera ce soir.
Merci Jérôme Val et merci à François Rivalan pour les moyens techniques. Vous étiez en direct de Moscou, Science et Football. À ce soir pour le magazine de la rédaction de 17h à 18h. Présentation Aurélie Kiefer et c'est réalisé par Annie Brault.